Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre série Catharsis, séparer le bien du mal, le bon du mauvais, une série sur les choix. Je suis tellement encouragé, tellement béni de tous les déjà de beaucoup de courriels que nous recevons de gens qui font des choix, qui décident de faire des choix de vie. J'ai lu des témoignages déjà dans les dernières quelques semaines de choix face à la consommation, face à des dépendances, des choix relationnels, des choix de pardon, des choix extraordinaires. Et je crois que c'est seulement le commencement. Je suis aussi enthousiaste, je suis heureux de donner une parole d'encouragement. Alors qu'il y a des zones qui commencent à s'ouvrir pour Nouvelle Vie, des zones oranges. Alors nous allons pouvoir reprendre en présentiel très bientôt dans les zones oranges. Nouvelle Vie à Drummondville, par exemple. Nouvelle Vie à Charlevoix. Suivez bien sur nos réseaux sociaux, sur votre propre page Facebook, l'hebdo du samedi matin, alors qu'on va vous donner toutes les directions. Mais nous revenons en présentiel en zone orange et bientôt sur tous nos sites. Nous en sommes convaincus. Lorsqu'on parle de Catharsis, c'est une série sur les choix. Si on regarde quelques définitions qui sont devant nous, une série sur les choix. Catharsis du grec ancien, c'est la purification, la séparation du bon du mauvais, du bien du mal. C'est l'action correspondant à choisir afin de nettoyer. Nos choix nous permettent de nettoyer, de purifier, de guérir, de libérer et de grandir. C'est notre vision, c'est notre mission pour cette prochaine année. Notre vision, c'est de vous aider, vous équiper, vous enseigner tous ensemble afin qu'on puisse faire de meilleurs choix pour moins de regrets. De meilleurs choix dans nos vies va toujours résulter en moins de regrets. Nous voulons faire des meilleurs choix parce que nous sommes aujourd'hui le résultat, la somme de tous nos choix d'hier. Et toutefois, c'est important de se rappeler que même si on a eu des bons choix hier qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui, nos bons choix d'hier ne nous protègent pas des conséquences de mauvais choix que nous ferions aujourd'hui. On peut avoir fait pendant plusieurs décennies de notre vie de bons choix, mais encore aujourd'hui, faire les choix est un mode de vie qui doit être repris aujourd'hui. C'est pour ça qu'on regarde à trois dynamiques. On apprend ensemble ces trois dynamiques bibliques à prendre lorsqu'on fait des choix dans toutes les sphères de nos vies, entendre la voix de Dieu qui dit « Arrête-toi, apprends et agis ». Arrête-toi lorsque tu as des décisions et choix à faire. Apprends et agis. Dans Deutéronome, chapitre 30, et le verset 19, « Arrête-toi, apprends et agis. » Dieu parle et il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Ça, c'est du « Arrête-toi, c'est sérieux, c'est important. » Il y a tellement qui va en découler. « Choisis la vie. » Afin que tu vives, pour aimer ton Dieu, pour apprendre, arrête-toi et apprends, pour apprendre à obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Ça, c'est l'action, ça, c'est agir. Je m'arrête, j'apprends et je vais m'attacher, je vais agir, car de cela dépend ta vie, de ce processus de décision, de cet appel à décision. Et en Dieu, il nous donne le pouvoir. Il nous donne la capacité de faire les bons choix. Dieu dit, ce n'est pas au-dessus de tes forces. C'est un texte magnifique dans le Deutéronome qu'on vient de lire. Connaissez-vous les versets précédents? Dieu dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces. Ce n'est pas hors de portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique si on regarde la suite. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera de l'autre côté afin qu'on puisse le mettre en pratique. C'est une chose. Au contraire, la capacité de faire des choix, de choisir aujourd'hui, Dieu dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est tout près de toi. Le commandement, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option de faire des choix dans la vie du croyant. L'absence, la négligence, la procrastination, remettre à plus tard de faire certains choix de nos vies est toxique et destructif. Dieu dit aujourd'hui, tu vois, c'est un commandement de faire des choix et ce commandement-là, il n'est pas au-dessus de tes forces. En fait, ce passage du Deutéronome se reflète fait partout à travers la parole de Dieu, même jusque dans le Nouveau Testament. Prenez la référence en note dans 1 Corinthiens 10, 11 à 13, l'apôtre Paul relie l'Ancien et le Nouveau Testament dans cet appel à faire des choix que c'est pas au-dessus de nos forces. Il dit les choses dans 1 Corinthiens 10, 11 à 13, les choses dans l'Ancien Testament sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui vivrons, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul l'appliquait à lui-même, mais nous, jusqu'à nous, prophétiquement, à la fin des siècles. Ainsi donc, avec celui qui croit, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, sois alerte, tu vas toujours avoir à faire des choix. Aucune tentation, vous pouvez écrire dans le chat, aucune. Aucune tentation ne sera au-delà de vos forces. Et Dieu, qui est fidèle, pour chaque ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Pour chaque tentation, il va préparer un moyen d'en sortir. Et le moyen, c'est nos choix. C'est pour ça que Dieu dit dans le Deutéronome qu'on a lu, c'est pas au-dessus de tes forces. C'est près de toi, c'est près de ton cœur, c'est près de ta bouche. Je peux faire des choix aujourd'hui et mes choix les plus privés vont avoir éventuellement, immanquablement, des répercussions publiques. Mes choix vont toujours avoir une conséquence directe, non seulement pour moi-même, je ne fais jamais des choix seuls. Je fais toujours des choix qui influencent les gens autour de moi. Et mes choix spirituels sur cette terre vont avoir une conséquence éternelle. Les choix que je vais faire sur cette terre aujourd'hui vont déterminer si je vais être avec Dieu ou séparé de Dieu pour l'éternité. Dans quel état est-ce que je vais me présenter lorsque chaque être humain va se présenter devant Dieu? C'est l'ampleur de nos choix, même pas seulement pour notre vie sur cette terre, mais dans l'éternité. Nos choix vont déterminer notre qualité de vie, la mesure de paix qu'on va vivre, la mesure d'accomplissement, d'épanouissement. L'empreinte, tes choix vont déterminer l'empreinte que nous allons laisser sur les gens autour de nous. Nos choix sont le volant, sont le gouvernail de nos vies. Nous écrivons l'histoire de notre vie un choix à la fois. Et Dieu dit, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Dieu dit, c'est lui qui est venu vers nous pour nous rendre capables de faire les bons choix. Vous avez vu, remarqué ce que dans Deutéronome, il dit, ce n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel, ce n'est pas de l'autre côté de la mer. Il fait référence ici à leur pensée dans la mythologie des temps anciens, était remplie de cette notion que c'est un homme-dieu qui doit monter au ciel. Et Dieu dit non, c'est moi qui est venu vers vous. C'est moi qui est venu vers vous. Et pour nous, en Christ, c'est Christ qui est descendu vers nous et qui nous rend capables de faire les choix. Ce n'est pas de l'autre côté de la mer. Encore une fois, une référence à la mythologie de leur époque où il y avait ce héros. La mer était comme un infranchissable. Et qui va être le héros, l'élite? C'est tellement hors de portée. Et Dieu dit non, c'est pas de l'autre côté de la mer. Ce n'est pas pour le héros, pour l'élite, pour un demi-dieu. Ce n'est pas plus fort que toi. Ce n'est pas au-delà de tes forces. C'est une chose. La capacité de faire des choix. Ça t'appartient et je te donne la force de le faire, qui est près de ton cœur, près de ta bouche. Arrête-toi, apprends et agis. Et alors que nous allons le faire, nous allons nettoyer, réparer, restaurer, guérir nos vies, protéger, enrichir, libérer et décupler nos vies et celles de notre entourage. Et aujourd'hui, on fait un choix qui est commun à chacun d'entre nous. Si on regarde à notre titre qui va apparaître, aujourd'hui, nous faisons le choix, choisir la confiance au lieu du contrôle. Choisir la confiance au lieu du contrôle. Et deux pensées puissantes qui, j'espère, vont s'imprimer dans ton cœur. Dieu peut faire tellement plus quand tu lui fais confiance que lorsque tu essaies de tout contrôler. Dieu peut faire infiniment plus que lorsque tu lui fais confiance que lorsque tu essaies de tout contrôler. Et la deuxième, tu n'as pas le pouvoir de tout contrôler, mais tu as le pouvoir de tout lui confier. Tu n'as pas le pouvoir de tout contrôler, mais tu as le pouvoir de tout lui confier. Alors, on fait un petit sondage maison, nouvelle vie. Levez la main à la maison. Si vous êtes en train de l'écouter seulement, vous êtes dans le métro, dans l'autobus, dans votre voiture. Il ne faut pas lever les mains, mais discrètement, là où vous êtes, à main levée, là où vous êtes, combien d'entre vous diraient que dans certains aspects de ma vie, j'aimerais ou j'aime avoir le contrôle? Main levée. J'aime avoir, il faut que je le confesse, j'aime avoir le contrôle. Si vous avez le goût de lever la main de la personne à côté de vous, dans votre salon, c'est à vous que s'adresse ce message. Prenez des notes. Vous êtes le control freak, vous êtes le contrôleur en chef. Chacun de nous avons des enjeux de contrôle. On voit ça dans les milieux de travail, les personnes qui, faut que ça soit fait comme moi, je le fais, ma méthode, touche pas à ça, laisse faire ça. Ça. On l'a toujours fait comme ça. Ceux qui ont de la difficulté à déléguer, faut que ça soit moi qui le fasse, contrôle, et je commence à te le déléguer, tu le fais pas à mon goût, je le reprends. Contrôle au travail, enjeu de contrôle à la maison. Si vous êtes marié, c'est une des grandes joies, c'est une des épices de la vie mariée, une des choses qui rend la vie mariée si palpitante et intéressante, c'est que mari et femme ont chacun leur sphère de où c'est important pour eux d'avoir le contrôle, leurs enjeux de contrôle. Et habituellement, la majorité des couples, c'est facile pour nous de considérer que mes enjeux de contrôle sont logiques. Mes enjeux de contrôle sont logiques et normaux et rationnels. Et les enjeux de contrôle de mon épouse sont bizarres et irrationnels. Lorsqu'on s'est marié, Chantal et moi, il y a 34 ans, là, vous pouvez essayer de me psychanalyser, mais moi, j'avais un enjeu de contrôle. Je déteste manquer. Il n'y a aucune raison pour qu'on manque de quoi que ce soit. Dans ma maison, c'est devenu rapidement le principe des 4 bouteilles de Coke Diète. On n'est pas riche, mais on est capable de s'acheter 4 grosses bouteilles de Coke Diète. Et lorsqu'il y en a 2 qui sont écoulées, t'en achètes 2 autres parce qu'il n'y a aucune raison de manquer de quoi que ce soit. C'était mon enjeu. Chantal a vraiment une dynamique de contrôle pour ce qui est important pour elle. Par exemple, pour la maison. Chantal, pour mon épouse, entrer, marcher avec des souliers dans la maison, c'est un péché capital. C'est majeur. Sa maison doit être impeccable. Et moi, bien que j'aime voir la maison si belle et toujours impeccable et tout ça, pour moi, ce n'est pas nécessaire que je ne dois pas absolument contrôler tout dans notre maison, mais je veux contrôler tout le reste. Mon ami, le pasteur Marc Lecomte, que vous connaissez bien, a un enjeu de contrôle très grave au niveau de la conduite au volant. Moi, par exemple, j'ai eu 2 accrochages dans ma vie il y a 30 ans. Je conduis bien, j'ai pas d'accident, j'ai rien. Mais pasteur Marc, en auto à côté de moi, maintenant, c'est tellement rendu quelque chose que je connais que son voyage ensemble, je le laisse conduire. Et il est presque le genre qui va conduire à ta place. Il y a un enjeu de contrôle. Peut-être que ce message va l'amener à sa délivrance. Alors, dans le chat, inscrire quel est votre enjeu de contrôle. Est-ce que c'est la télécommande? Est-ce que c'est l'argent, le budget, les dépenses, votre page Facebook? Qui et combien de personnes like vos parutions, vos posts? Est-ce que c'est le contrôle de ton image, ton apparence, ta réputation au travail, ta réputation avec tes amis, ta réputation spirituelle, ton image? Est-ce que c'est ton poids? Est-ce que c'est tes cheveux ou la disparition graduelle de tes rides, ton look? Est-ce que c'est le contrôle de ton argent, tes enfants, tes amis, ton futur, ton titre, ton ministère? C'est quoi ton enjeu de contrôle? On va regarder un texte ensemble qui est un des plus connus de toute la Bible par beaucoup, beaucoup de chrétiens, un des plus puissants, mais aussi un des plus difficiles à vivre au quotidien dans la dynamique de choisir la confiance au lieu du contrôle. C'est le Proverbe 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est tellement puissant. Que ce soit la première fois ou la 10 000e fois que vous entendez ou lisez ce verset, ce passage biblique si riche, est-ce que je peux vous défier à dire avec moi, « Seigneur, peux-tu m'aider vraiment? » à vivre, à mettre en pratique ces choix de confiance au lieu du contrôle que tu à laquelle tu m'appelles dans ta parole. Confiance, cette dynamique de confiance, de me confier, pas en moi-même, mais à l'Éternel, de tout mon cœur, dans toutes mes voies. Vous, dites-le à voix haute si vous êtes à l'aise de le faire. Faire confiance à Dieu dans toutes mes voies, de tout mon cœur. Faire confiance à Dieu dans toutes mes voies, de tout mon cœur. Faire le choix de relâcher entre ses mains, de lâcher prise. Le choix de lui remettre mes enjeux, toutes mes voies, mes insécurités, mes offenses, mes blessures, mes ambitions, mes orgueils, mes échéanciers. de lui remettre, de résister au contrôle. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ce que toi tu veux contrôler. Ton contrôle, tes préférences, tes standards, tes plans, tes ambitions, tes attentes, tes échéanciers, tes demandes. Est-ce que ça va être moi qui va tracer, aplanir le chemin de mes sentiers, essayer de le contrôler, ou est-ce que je vais laisser Dieu diriger mes sentiers, ne pas être sage à mes propres yeux, me détourner du mal, catharsis, séparer le bien du mal. Et le choix du contrôle total, lorsqu'on entre dans cette dimension du choix du contrôle total, ça devient en fait mal. Ça devient un rejet et un remplacement de Dieu. Je prends la place de Dieu pour le contrôle de ma vie. Lorsque le contrôle remplace la confiance, les conséquences sont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Un des exemples les plus marquants est au tout début du pèlerinage de foi, des modèles de foi. Abraham est le père de la foi. Et pourtant, il est capable de grande confiance. On a Abraham dans un grand geste de confiance, dans un cœur de confiance, quitte Ur en Chaldée, suit l'appel de Dieu. Mais il a une sphère, il a une zone dans sa vie, un enjeu de contrôle. Dieu lui a fait une promesse, tu vas être un père, tu vas avoir des enfants, toi et ton épouse Sarah. Et alors que les années passent et que la promesse ne s'accomplit pas, il y a tout ce combat en lui, cet enjeu de confiance. Et on se retrouve à un moment où ils vont transférer, un moment où le contrôle va remplacer la confiance et les conséquences sont dévastatrices. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfants. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. C'est cette dynamique malsaine où le délai amène une pression et où nous sommes dans cette dynamique où le retard selon nos échéanciers avec Dieu est maintenant considéré comme un rejet, comme un refus. Elle blâme Dieu simplement pour un retard. C'est une bonne question. Est-ce que tu fais confiance à Dieu seulement s'il respecte ton agenda? Et c'est une tentation pour chacun d'entre nous. Alors que le retard a pris place, Sarah va penser l'inimaginable. Elle va aller vers la servante. Elle va pousser son mari à aller vers la servante. Et si vous trouvez que c'est tellement loin de nous, c'est simplement cette dynamique où est-ce que je ferme mon cœur à Dieu, où est-ce que maintenant je n'ai plus confiance en lui, je prends le contrôle et ça amène souvent. Ça amène souvent un labyrinthe, ça va amener dans notre vie toutes sortes de... peut amener littéralement une spirale aux conséquences inimaginables. Le retard qui est vu comme un rejet, je blâme Dieu, puis il y a une descente où je peux en venir à renier mes convictions avec Dieu, ma marche avec Dieu, à faire ce que je croyais inconcevable de faire, à renier les commandements de Dieu et même mes convictions les plus profondes. Ça peut être un chrétien qui commence ou qui recommence à consommer. Il y a une étape qui mène à une autre et il n'a plus, et là, il n'a plus confiance en Dieu. Essaye de contrôler un couple qui veut tout trop vite et qui s'enlise dans les dettes, la fraude, qui ment. Il y a toutes sortes de choses qui peut en dégénérer. Le contrôle, je n'ai plus confiance. C'est la personne qui, ça va pas assez vite, la transformation dans mon couple. L'autre ne change pas assez. Je prends la situation en main, c'est moi qui vais contrôler avec tout ce que ça peut. Une personne dans le ministère qui n'accepte pas un délai, une nouvelle saison, une nouvelle direction de Dieu, je l'accepte pas, je veux le contrôler, je suis en train de perdre le contrôle. Ça peut aussi être quelqu'un qui, dans son entêtement à tout vouloir contrôler, perd la notion de ce qui est vraiment important à long terme. Empoisonne son aujourd'hui pour ce que souvent n'aura pas vraiment d'impact à long terme ou sur demain. Et on a vu ensemble dans les derniers messages qu'on aime cette équation, que de meilleures questions amènent de meilleurs choix. Meilleures questions de vie, meilleure qualité de vie. Alors, je vais vous donner trois questions ensemble. On regarde à trois questions ensemble pour faire le choix de la confiance versus le contrôle. Autour de ce proverbe 3 qu'on a regardé ensemble, où on confie-toi à l'Éternel, mets ta confiance en lui, pas tes propres sphères et tendances de contrôle, il y a la première question qui est importante. Vous allez voir, il y a un équilibre. Première question pour faire le bon choix de la confiance au lieu du contrôle. Première question, proverbe 3, versets 1 à 4. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je veuille le contrôler? Est-ce que c'est tellement important que je dois contrôler ça, cet aspect-là? Proverbe 3, 1 à 4. Mon fils, ma fille, veux-tu prolonger tes jours? Veux-tu augmenter ta paix? Je réponds oui, c'est ce que je veux. Je veux augmenter ma paix. Que la bonté, l'amour, la gentillesse, loving kindness, littéralement le mot c'est l'amour est dans la gentillesse. Que la bonté ne te quitte pas. Écris-les sur des tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et des raisonnements plus sains. Meilleure perspective, meilleur raisonnement devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que je m'empoisonne la vie et celle des autres en m'entêtant à essayer de contrôler ce qui en fait n'en vaut pas la peine, ce qui ne sera pas de conséquence à long terme? Est-ce que j'empoisonne toute l'atmosphère autour de moi à essayer de contrôler toutes sortes de choses qui sont de moindre importance? C'est la longueur des cheveux de mes ados, c'est son look, c'est son habillement, c'est sa chambre qui est défaite, c'est des miettes dans ma voiture, c'est toutes sortes de trucs et de choses. Question, vas-tu prolonger et augmenter ta paix? Est-ce que c'est tellement grave que ça vaut que j'en perde ma gentillesse, que j'en perde ma grâce? Est-ce que je réalise que je peux être bon dans mes convictions devant Dieu? Le principe est bon, mais mauvais dans mes communications, dans mon contrôle devant les hommes. Je suis en train d'empoisonner situations pour des choses qui sont de moins d'importance. Est-ce que je suis prêt à réaliser que mes résolutions spirituelles, qui peuvent être bonnes en elles-mêmes, doivent être accompagnées de raisonnements sains, de communication saine, de prendre en perspective jusqu'à quel point est-ce que c'est si important? Est-ce que je suis tellement accro au contrôle que je ne peux plus acquérir la grâce dans mon cœur? Je suis en train d'obséder sur quelque chose qui n'est pas d'importance. Est-ce que je suis désespéré à contrôler ce que je devrais décider de confier? Je vous l'amène en perspective de leadership en tant que pasteur de l'Église Nouvelle Vie maintenant. Notre Église avec plusieurs milliers de personnes et 6 différents sites avec toutes les autres choses dont je suis responsable. Tous les sites, toutes les réunions, la joie, le privilège de siéger avec d'autres sur plus d'une centaine d'églises et de titulaires de l'aide d'accréditation d'église de l'Association chrétienne pour la francophonie, la joie, le privilège de travailler avec d'autres à l'Institut de théologie pour la francophonie, tout ce qui peut y avoir autour. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des choses que j'aimerais qu'ils s'améliorent tout de suite? Est-ce que je ne vois pas des choses que j'aimerais qu'ils soient faites différemment? Je dois au quotidien choisir ce que je dois corriger et ce que je dois confier, que je dois relâcher. Ce en quoi je dois être tolérant avec ce qui ne vaut pas la peine et être tenace avec ce qui est prioritaire. Et c'est un choix de leadership. Mais en leadership, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton ministère, en leadership, tu peux avoir le contrôle total ou la croissance, pas les deux. Si tu veux avoir la croissance, tu ne peux pas penser que tu vas avoir le contrôle total sur tout. Dans nos relations, vous pouvez avoir de l'harmonie, de l'intimité, du bonheur, de la joie dans votre famille, dans vos relations, ou le contrôle total, pas les deux. Si tu cherches le contrôle total, tu vas perdre le reste. Avec vos enfants et ados, vous pouvez avoir la paix, de bonnes valeurs que vous inculquez, vous pouvez avoir une belle relation malgré toutes les tempêtes de la vie, ou le contrôle total, pas les deux. Alors la question, c'est est-ce que ça vaut la peine que je m'énerve de polluer l'atmosphère, de me choquer, de bouder, de répéter, de radoter, de crier pour quelque chose qui va être de moindre importance à long terme? C'est une première question importante. Est-ce que plusieurs d'entre vous en ce moment, une des choses que Dieu veut vous amener à réaliser, c'est toutes les choses que t'as, des choses qui sont de tellement moins importance que tu essaies de contrôler, que tu dois maintenant relâcher? La deuxième question, c'est pas seulement est-ce que ça vaut vraiment la peine. La deuxième question, c'est est-ce que je veux vraiment vivre selon la parole de Dieu? Vous allez voir l'équilibre. Première question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il faut vraiment que je contrôle tout ça? Est-ce que je pourrais le laisser aller? J'ai un ami qui m'expliquait, j'entendais un pasteur raconter que pendant des années, lorsqu'il avait ses jeunes enfants, il avait une super belle véranda, une super belle porte vitrée qui donnait sur son jardin, sur sa cour, et il aimait s'asseoir, il regardait à travers, et à chaque fois qu'il arrivait le jour, regardait à travers la fenêtre, puis il y avait plein de doigts des enfants dans la fenêtre, et ça le rendait fou. Il dit, le nombre de fois que j'ai crié à propos des doigts dans la fenêtre. Puis il me disait, c'est bizarre, parce qu'il dit, maintenant que la maison est vide et que les enfants sont partis, puis les enfants ont même sont mariés et sont à des distances, il dit, je m'ennuie des doigts dans la fenêtre. Est-ce que des choses qu'en ce moment tu t'empoisonnes les autres à court terme, que tu devrais simplement relâcher? La deuxième question, c'est est-ce que je veux vraiment vivre selon la parole de Dieu, toujours dans ce contexte de confie-toi en l'Éternel, confiance versus contrôle. Mon fils, n'oublie pas, n'abandonne pas mes enseignements, que ton cœur garde ma parole, ne méprise pas la correction, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, de ton cœur, de tes réflexions. Sa sagesse, la sagesse de la parole a plus de valeur que tous les objets de prix. Très important, est-ce que la parole de Dieu m'appelle à relâcher et aussi dans d'autres sphères de ma vie, est-ce que la parole de Dieu m'appelle à prendre position? Oui, à exercer un contrôle. Nous confier en Dieu ne veut pas dire que je ne prends pas le contrôle et la responsabilité de ce qui m'appartient. Dieu ne fera pas pour moi ce qu'il m'appelle à contrôler, ce qu'il m'appelle à maîtriser moi-même, à prendre. Alors, il y a relâchement versus je dois prendre responsabilité. Galates 5, vous avez le choix entre la vie de l'esprit et la vie de la chair, et toutes les œuvres de la chair destructives qui sont là sont des choix. Tu choisis l'impudicité, la jalousie, les querelles, les divisions, l'ivrognerie, les excès. Et un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, c'est la capacité de contrôler. Avez-vous déjà réfléchi à tout ce que la parole de Dieu m'appelle à prendre responsabilité, à contrôlé par sa grâce, par son esprit, par sa parole? Comprenez-vous l'équilibre entre les deux questions? Est-ce que ça vaut la peine? Il y a des choses qu'il faut que j'arrête d'essayer de contrôler, il faut que je relâche. Mais est-ce que je veux vraiment suivre la parole de Dieu, vivre selon sa parole? Est-ce que la parole m'appelle à prendre responsabilité? Et honnêtement, bibliquement, oui. Dans plusieurs sphères de nos vies, la réponse est oui. Je suis responsable de contrôler mes actions. Avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, par sa présence, mais ma volonté humaine rendue capable par la capacité divine, responsable de mes actions, de mes pulsions, de mes pensées, de mes paroles, de ma sexualité, de nos relations, de notre cœur, de comment je gère mon argent, de notre pardon, de mon honnêteté, de dire la vérité, responsable de mes valeurs, de mes priorités, responsable de mon temps, de mon agenda, responsable de mon argent, de mon intégrité, de ma vie spirituelle, de mes choix, responsable de mes choix moraux, mes choix spirituels, mes choix relationnels, professionnels. Par exemple, tu t'es mis dans le trou financièrement, tu ne peux pas dire, Seigneur, je te confie tout ça. Le Seigneur t'appelle à prendre ta responsabilité, à travailler, à économiser, à faire les changements nécessaires, à aller chercher l'aide nécessaire, à faire les changements. Tu as des problèmes majeurs dans ton mariage. Tu ne peux pas seulement juste dire, Seigneur, je t'ai confié. Tu as besoin de dire, qu'est-ce que moi je dois faire? Comment est-ce que je peux m'arrêter et apprendre et agir et faire des choix, des décisions, des changements, le travail nécessaire, consulter, l'aide, changer. Tu as été blessé, victime d'injustice. Tu as souffert. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, je te fais confiance. Hein? Maintenant, Seigneur, voici ma part, voici mon relâchement, mais voici aussi ma responsabilité de grandir, d'en sortir, de changer, de pardonner. Tu as fait des erreurs, tu as fait une gaffe, tu es en plein dedans en ce moment. Tu ne peux pas juste dire, je te confie tout ça. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois changer maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que je dois, moi, avec ton aide, contrôler? Alors, vous avez, qu'est-ce que je dois relâcher qui n'est pas assez d'importance? Qu'est-ce que je dois prendre responsabilité? Et la dernière pensée, dernière question, c'est qu'est-ce que je dois vraiment, entièrement remettre à Dieu seul, parce que c'est hors de mes mains. C'est hors de mes sphères de contrôle. Est-ce que cette situation est pour Dieu seul? Est-ce que je vais vraiment lui confier, lui faire confiance, lui remettre le contrôle de tout ce qui appartient à Dieu et à Dieu seul? Est-ce que je vais confier à l'Éternel de tout mon cœur, le déposer, le porter à ses pieds, ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse, je lui fais confiance, le rechercher dans toutes mes voies, ne pas être sage à mes propres yeux, me détourner du mal. N'oublie pas, Dieu peut faire infiniment plus quand tu lui fais confiance que lorsque tu essaies de tout contrôler. Tu n'as pas le pouvoir de tout contrôler, mais tu as le pouvoir de tout lui confier. Je vous donne trois analogies, trois moments sportifs que j'ai vécu au fil des années. Il y a plusieurs années, pas maintenant, je n'ai pas le temps maintenant, mais il y a plusieurs années, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, pendant une certaine période de temps, je me suis entraîné fort. Je m'entraînais fort, je me souviens d'un moment donné, alors que je m'entraînais fort, que je commençais à avoir des douleurs dans un bras, l'épaule, et des deux côtés, épaule et coude. Et lorsque j'avais parlé à mon entraîneur, j'avais dit, ça doit être parce que je lève trop, que ce soit les différents exercices, j'avais augmenté mes poids. Puis il m'avait dit ceci, et je n'avais pas tout catché, certainement pas catché, saisi la portée spirituelle. Mais il m'avait dit, non, c'est très clair, ce n'est pas le poids qui t'a fait mal, c'est parce que tu tiens les choses trop serrées. Deuxième vignette sportive, un pro de golf. J'ai pris quelques leçons de golf. Évidemment, je n'en ai pas pris assez. Mais dans une leçon de golf, il m'avait dit, vas-y, là, frappe quelques balles, je vais te regarder. Puis moi, je prends mon bâton, puis je me place et je frappe. Puis il m'avait dit, oh, tu es du genre qui serre trop serré. Si tu tiens les choses moins, si tu tiens ton bâton moins serré, tu vas frapper plus fort, plus loin, avec plus de constance et moins de balles perdues. Moins serré, plus fort. Plus loin, plus de conscience, moins de balles perdues. Mon gourou de golf, c'est Pasteur Marc Lecomte, qui est un champion de golf, et qui m'avait donné il y a plusieurs années ce conseil, cette image. Il m'avait dit, tiens ton bâton comme on tient un petit oiseau. Pas trop serré pour ne pas l'écraser, mais aussi pas trop lousse, il faut que tu l'entoures pour le protéger. C'était très beau, je n'ai jamais réussi à le faire, mais c'était très beau comme image. Et il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Est-ce que ça se peut que ce qui te fait mal n'est pas le poids nécessairement? C'est que tu tiens trop serré en ce moment. Tu tiens trop serré. Il y a quelque chose qu'il faut que tu relâches à Dieu. Et c'est l'essence, la dernière pensée aujourd'hui, c'est que c'est l'essence de la vraie adoration. La vraie adoration est de relâcher et d'abandonner aux pieds de Dieu. D'abandonner devant Dieu la situation, la personne, le conflit, la chose que tu cherchais tellement à contrôler. C'est abandonner à ses pieds, c'est lâcher prise. Adorer Dieu, c'est bien au-delà de chanter, c'est de la louange et de la connaissance de la parole de Dieu. Je méditais cette pensée que tu peux arriver dans un moment d'adoration, tu peux écouter des centaines de chants de worship et arriver en contrôle de toutes choses et avec spirituellement, avec les mains levées physiquement, mais tu entres en contrôle, tu sors en contrôle, tu n'as jamais abandonné la situation à Dieu. Et à cause de ça, tu ne goûtes jamais à sa paix. Tu ne goûtes jamais à cette profondeur de paix qui dépasse les circonstances, qui te porte ce courage, ce renouvellement, cet espoir lorsqu'il n'y a pas d'espoir. Tu n'y goûtes jamais malgré 10 000 chants de worship, malgré toute la connaissance, malgré le fait que tu prêches ta parole à d'autres et que tu es capable de d'enseigner tous les concepts. La vraie adoration est littéralement d'abandonner dans les mains de Dieu. Le psaume 40 nous appelle à un cantique nouveau, une nouvelle façon d'adorer. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, qui relâche, qui abandonne la situation à Dieu. Confiance, le choix de la confiance. Pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance dans ce que je ne peux changer, dans ce qui est hors de mon contrôle? Parce que tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Notre adoration de confiance est fondée sur le caractère de Dieu. Alors, je vais vous donner trois omnis de Dieu. Le psalmiste a dit, c'est parce qu'il n'y en a aucun autre comme toi, il n'y en a aucun qui est comparable à toi. Dans la mesure où je suis renouvelé dans la connaissance, la compréhension de son caractère envers moi, qu'il est en effet incomparable, dans la mesure où je vais venir vraiment abandonner, relâcher à Dieu, abandonner le contrôle à Dieu, de relâcher avec aucune intention de reprendre le contrôle, de relâcher, d'abandonner le contrôle à Dieu. Les trois omnis de notre confiance, je viens lui remettre tout entre ses mains à cause de son omnipotence. Omni, tout, potence puissante. Il a toute puissance. Lorsque Abraham a été appelé à remettre son fils, à remettre le contrôle du futur d'Isaac à Dieu, offre-moi ton fils Isaac, fais-moi confiance. C'est par la foi qu'Hébreux 11, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. J'avais reçu une promesse. Et ce qui avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mais comment a-t-il été capable de le remettre à Dieu, de l'abandonner entre les mains de Dieu? Pourquoi? Parce que ses pensées étaient fondées sur ceci. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, et aussi le recouvrira-t-il avec une, par une sorte de résurrection. Abraham a dit, je ne comprends pas, c'est hors de mon contrôle, tu me demandes de t'offrir mon fils, mais je te l'offre, je te le remets. J'avais reçu une promesse, j'ai complètement perdu le contrôle, mais je le remets entre tes mains parce que je crois en ton omnipotence, en ta toute-puissance, parce que je crois que tu es le Dieu de la résurrection et j'ai été saisi par la pensée, même par une sorte de résurrection. Je ne sais même pas comment tu vas le faire, mais tu peux ressusciter. Je te fais confiance pour mon fils, pour ma fille, pour mon mariage, pour mon futur, pour mes études, pour mon entreprise, pour cette blessure, pour ce mal que quelqu'un d'autre m'a fait. Je te fais confiance parce que tu es tout-puissant. Parce que tu ressuscites ce qui est mort. Et ça, c'est vraiment de l'adoration. Parce que dans Genèse 22, 5, on nous dit qu'au moment où il a fait ça, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, c'est le moment d'offrir mon fils. Et moi et le jeune homme, nous irons là pour adorer. Et nous reviendrons près de vous. » Nous venons l'adorer à cause que, quelle que soit la situation, il est tout puissant. Je viens abandonner tout avec à ses pieds lorsque j'ai perdu le contrôle, non seulement parce qu'il est tout puissant, mais aussi qu'il est son omnipotence, mais parce qu'il est toute science, toute connaissance. Il sait tout, son omniscience. Et ça, c'est David. David a un moment où il a perdu complètement le contrôle. David a un moment où lui qui est habitué de décider, de maîtriser, de diriger, de contrôler, son royaume, c'est un roi, c'est un homme de... Mais à ce moment-ci, on le retrouve, vous le lirez à la maison, c'est fou. Dans 1 Samuel 15, il n'a plus contrôle sur rien. Son propre fils, Absalom, vient contre lui. Son propre fils, Absalom, vient monter un coup d'État contre lui. Il est forcé de quitter la ville. Et alors qu'il quitte la ville, c'est tellement triste, les hommes pleurent partout autour de lui. Mais voici la déclaration de David. « Me voici, que Dieu fasse avec moi ce qui lui semble bon. » Omniscience. Il connaît plus que je connais. Lorsque David arrive au sommet, entouré de tous ceux qui marchaient avec lui, il y a ceux qui pleurent. Mais David nous montre l'adoration, le véritable abandon de l'adoration. Non seulement il est tout puissant, mais moi je viens l'adorer parce qu'il est toute science, toute connaissance. Il sait tout, il est alpha. Oméga, il était là avant moi, il était là après moi. Moi, je vois comme ça, mais lui a encore un plan de l'autre côté. Je ne connais pas tout, lui connaît tout. On nous parle beaucoup d'écouter la science en ce moment. Soyons d'accord que depuis le début de cette pandémie, la science, elle est imparfaite, elle est limitée, certains diraient parfois contradictoire. Nous nous fions à la science avec toutes ses limites, mais il y a la science de Dieu, la connaissance de Dieu. Dieu sait tout de toi, de ta vie, ton passé, ton futur, tes carences qui te blessent, tes enfants, tes petits-enfants, ta carrière, ton ministère. Alors je viens et je l'adore. Je viens me prosterner avec Abraham parce qu'il est tout puissant. Je viens me prosterner avec adoration, avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Saviez-vous à quel moment il a écrit ça? Tous les théologiens s'entendent qu'il a écrit. Il a écrit ce psaume 40. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un cantique de confiance en Dieu. Je vais mettre ma confiance en toi parce que tu as multiplié tes merveilles et tes desseins. À ce moment précis de sa vie où il avait perdu tout contrôle, où Absalom se fond sur lui, je m'en remets à lui, il fera avec moi ce qui lui semble bon. Et troisièmement et dernièrement, l'abandon et l'adoration de notre confiance, son omniprésence, son omniscience, sa toute connaissance, son omnipotence, sa toute puissance et son omniprésence, toute sa présence en tout lieu, en tout temps. Hébreux nous dit, voilà pourquoi on vient l'adorer, avec abandon. Parce que Dieu à lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et lorsque ça dit, car Dieu lui-même a dit, ça fait référence à un texte de l'Ancien Testament. Lorsqu'on regarde ensemble au texte suivant, dans le Deutéronome, c'est Josué maintenant, dans un moment où il est hors contrôle. Josué, alors qu'il avait perdu ses repères, ses modes de fonctionnement, Il a tous ses ancrages, tout ce qu'il a connu. Moïse qui était son pilier, qui maintenant c'est une saison de transition. Son poste, ses fonctions, tout en ce moment, là, il fait face aux murailles de Jéricho que Dieu le destinait à renverser. Mais alors qu'il n'y a plus de Moïse avec lui, alors qu'il n'y a plus rien de pareil, alors qu'il se sent peut-être plus seul qu'il ne s'est jamais senti seul, hors de contrôle, voici, le Seigneur lui dit, « Fortifie-toi et ayez du courage. » Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te, c'est le texte hébreu qu'on vient de lire, il ne te délaisse, Dieu a dit lui-même, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et dans le texte, trois fois, Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je suis derrière toi, je suis avec toi, je suis devant toi. Trois fois, derrière toi, avec toi et devant toi. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre alors que j'arrive à la fin du message. Écoute-moi bien. Même dans nos pires mauvais choix, même dans les pires mauvais choix que nous avons faits ou en ce moment, j'ai perdu contrôle sur la situation à cause de mauvais choix que j'ai faits, voici le désir de Dieu pour toi. Dernier verset de la matinée ensemble, Josué 5. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée à la main, qui lui dit, ça c'est une théophanie, une christophanie, c'est Jésus lui-même qui apparaît dans l'Ancien Testament, annonçant qu'il ne nous quitte jamais, qu'il est toujours là, il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera pas, il est là avec toi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre et se prosterna pour l'adorer. La dernière pensée du message, le verset suivant, dans Ézéchiel, chapitre 18. Voici le choix, pourquoi je fais le choix de la confiance et pourquoi tu dois le faire. Voici ce que Dieu veut que tu saches et que tu entendes, alors que peut-être en ce moment, tu as fait dans une saison où tu as fait des mauvais choix et en ce moment, tu souffres et d'autres souffrent de tes choix. Ne t'endurcis pas, ne t'éloigne pas, n'essaye pas de contrôler toute chose. Arrête-toi un moment. Dieu dit, si celui qui avait choisi ce qui est mal se repent de ses fautes, s'il arrête pour apprendre mes commandements, qu'il choisit de pratiquer ce qui est droit, il vivra. Et il ne mourra pas et toutes ses fautes seront effacées. Et là, le cri du cœur de Dieu. Ce que je désire, est-ce que c'est que celui qui avait choisi le mal se détruise, dit l'Éternel? Non. N'est-ce pas qu'il fasse les bons choix, qu'il change de conduite et qu'il vive? Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous offrons à toi. Même dans nos pires choix, pour celui ou celle au bout de ce message, de l'autre côté de ce message en ce moment, qui entend ma voix, qui est dans les conséquences de ses pires choix, qui essaie de contrôler, est-ce que je vais être capable? Je ne contrôle plus rien. Nous le remettons entre tes mains maintenant. Ton désir est toujours, malgré les pires choix, dans ta grâce de nous restaurer, de nous rebâtir. Est-ce que mon désir est que celui qui a fait des mauvais choix se détruise? Non. C'est qu'il se repente, qu'il change de direction, qu'il s'arrête, qu'il apprenne, qu'il agisse, qu'il commence à faire des bons choix. Et alors, je le relèverai. Alors, je le restaurerai. Alors, aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi. Aide-nous à séparer ce qui est des choix inutiles. Est-ce qu'on doit relâcher les choses de moindre importance qu'on doit relâcher? Aide-nous aussi, Seigneur, à avoir ce sens de responsabilité sur ce qui m'appartient. C'est moi qui dois faire les choix. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi, à tout remettre à tes pieds, à faire le choix de la confiance et non du contrôle. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Joignez-vous, restez avec nous pour un moment d'adoration avec l'équipe de Nouvelle Vie Worship. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux toujours, il est toujours là, compter sur sa faveur. À chaque instant qui passe, mes chaînes enfin, c'est ton chant, c'est le mien, mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Faites les bons choix.